On va ouvrir la parole, on va continuer sur ces messages que nous avions commencé de voir, ces rencontres du Seigneur Jésus après la résurrection. Il a pris le temps de venir rencontrer les siens, et ça c'est vraiment important. Alors on va faire deux lectures dans 1 Corinthiens 15 et puis dans Luc 24. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé, enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Amen. Et dans Luc, chapitre 24, verset 50, les derniers versets de l'évangile de Luc, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Avant de partir dans l'éternité, il a béni les siens. Et j'oserais dire que notre mission est identique. Avant de partir, notre mission est de bénir les nôtres. Avant de partir particulièrement dans l'éternité. Et il a rencontré plusieurs de ceux avec lesquels il avait partagé du temps, des expériences et des situations. Il a rencontré Pierre. Alors je reprendrai juste une partie du message de cette rencontre ou d'une des rencontres avec Pierre, particulièrement la seconde pêche miraculeuse, quand il va rencontrer Pierre presque à part. Quand le Seigneur s'adresse à eux, ils prennent les poissons du côté droit de la barque, et quand ils arrivent sur le rivage, ils virent des charbons allumés, des poissons dessus et du pain. Et pourtant le Seigneur leur dit « Apportez des poissons ». Ça veut dire qu'il a tout prévu d'une part, et il a déjà tout préparé, mais qu'il y a une vérité spirituelle, c'est un principe spirituel, il ne fait pas tout. Il a tout préparé pour eux. D'une certaine manière, il n'était pas forcément utile qu'ils prennent quand même des poissons dans le filet. Et pourtant, oui, il a préparé pour eux, mais il leur dit de faire ce qu'ils doivent faire. C'est un principe spirituel. Dans la foi, nous obéissons à Dieu, et lui, il va s'occuper du reste. Et il va en rajouter. Mais il va rajouter à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à notre obéissance. Et le résultat, c'est qu'il y aura le nécessaire et plus. Et c'est toujours comme ça avec le Seigneur, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Avec Dieu, il n'y a pas de minimum vital, il y a toujours un maximum. 5 000 personnes, et sans compter les femmes et les enfants, sont nourries et il reste 12 paniers. Pour appuyer ce fait que quand il bénit au-delà de ce que nous demandons et de ce dont nous avons besoin. Voilà. Lui, il est vainqueur et nous, nous sommes en lui plus que vainqueurs. Et c'est un principe spirituel avec Dieu. Il nous bénit, mais il continue de rajouter à ce que il a prévu pour nous. Et ils prennent 153 grands poissons. Je pense que c'était la limite de rupture du filet, peut-être. Et le chiffre 153, pour moi, je vois là un chiffre précis. Parce qu'avec Dieu, tout est précis jusqu'au détail près. Il fallait nourrir la famille. C'est pour ça que le Seigneur les a bénis pendant la pêche miraculeuse, parce que ce qu'il avait préparé sur la plage, c'était pour le moment de ce repas, de ce jour-là, et pour ces personnes-là, Mais il y avait toute la famille derrière, et puis il y avait l'entreprise, et puis il y avait peut-être les dettes à payer. Alors les 153 grands poissons, c'est certainement parce qu'il fallait nourrir la famille qui n'était pas là, c'est parce qu'il fallait payer les factures, c'est parce qu'il fallait aussi avoir de la marge et mettre de côté pour renouveler le matériel et autres. Voilà. Et ça veut dire qu'avec Dieu, il y aura toujours au maximum de ce que je peux recevoir, de comprendre et recevoir. Et à la limite de la rupture, le filet ne se rompt pas, c'est écrit. À la limite de la rupture. Ça veut dire que le Seigneur va nous bénir autant que nous pouvons recevoir sa bénédiction. Amenez d'autres vases, il n'y en a plus. Et lui le s'arrêta. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas prévu de nous bénir jusque-là, pas plus. Il a prévu de nous bénir, et c'est peut-être nous qui sommes au maximum de nos capacités, de nos réserves pour les cruches, pour l'huile, pour le nombre de poissons, la dimension du filet. Néanmoins, le Seigneur va bénir au maximum de ce que nous pouvons faire et recevoir. Alors, comme le disent aujourd'hui certains, repoussons nos limites. Amen. Étends tes cordages, affermis tes pieux. Étends ta tente. Parce que le Seigneur a prévu de bénir, et c'est lui qui va donner sa grâce et sa bénédiction, mais parfois c'est nous qui mettons un petit peu des limites. Osons demander à Dieu des choses dans notre prière. Et surtout, ne nous trompons jamais, n'oublions jamais à la fin de lui dire que ta volonté soit faite. Au cas où je sois en dessous de ce que tu veux, au cas où j'ai oublié quelque chose, et dans tous les cas, parce que je veux que ta volonté prime sur la mienne que je viens d'exprimer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il a rencontré Jacques. Là, nous sommes dans une situation particulière. On en avait parlé une fois. Je ne vais pas reprendre ce message, mais il y a quand même des points importants. Il n'y avait plus de dialogue dans cette famille entre le frère aîné et les frères et sœurs cadets depuis des mois, voire peut-être même des années, peut-être pendant ces 3 années. Les seuls dialogues qui apparaissent dans les Écritures sont assez courts, voire tendus entre eux, puisqu'ils ne croyaient pas en lui, c'est écrit. Et quand on viendra lui dire « ta mère et tes frères et sœurs sont dehors », il leur fera répondre, allez dire que mes frères, ma mère, mes frères, mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon père. Alors, permettez-moi un instant, avec beaucoup de respect, de dire que sous un certain angle de vue, ils ne se parlaient pas directement. Ils ne se parlaient plus directement. Plus tout à fait normalement. Et certainement que le Seigneur était contraint dans cette situation de leur répondre de manière interposée puisqu'on vient s'adresser à lui de manière interposée. Alors ils répondent de la même manière puisqu'ils l'ont provoqué. Mais ceux qui veulent paraître ne restent pas cachés. Alors va à Jérusalem, monte à Jérusalem. Plus de dialogue depuis des mois et peut-être des années. Quelque chose qui est difficile quand quelqu'un part, la mort met les pendules à l'heure. Ça vous oblige à vous recaler comme il faut. Et là, on n'a pas un changement d'horaire d'ici-bas, hein, ça n'a rien à voir. Nous sommes obligés de nous caler pour l'éternité, devant l'éternité. Et Dieu nous dit que nous devons compter nos jours, pas ceux qui sont passés, ceux qui nous restent. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que nous devons nous caler dans la bonne dimension, qui est une dimension spirituelle. Jésus sur la croix oblige tout le monde à se repositionner, même les deux brigands. À un moment donné, il y en a un qui va se repositionner. Il ne peut pas en être autrement. C'est terrible, la mort, dans toutes ses dimensions, mais aussi dans celle-là. Elle vous oblige à revoir votre position. Elle fait apparaître aussi les réalités des relations dans une famille. Il n'y a que quelques amis à lui qui sont là, et sa mère. Aucun de ses frères et sœurs. À tel point qu'il est obligé de confier sa mère à l'un de ses amis. Et ça, c'est quelque chose de douloureux. J'oserais dire d'impardonnable. Seulement l'impardonnable d'aujourd'hui peut être pardonné demain. Alors je le redis parce que le Seigneur est passé par là et il est notre exemple et puis il est notre appui pour que cela puisse devenir une réalité. Aujourd'hui, c'est impardonnable que vous soyez absent que je sois contraint de confier Marie à Jean, c'est humainement parlant impardonnable, mais pas spirituellement parlant. Et quand il y a une œuvre spirituelle qui est en train de se faire, et elle va se faire, parce qu'il a tout accompli, alors c'est ou tout ou rien. Et si tout est accompli, et il a dit, c'est sa dernière parole, ça veut dire que ce point-là qui le concerne, parce qu'avant de s'adresser aux autres, je crois que le Seigneur il s'est rendu semblable à nous, d'une certaine manière, il a pris soin que ce qu'il nous dit, il l'ait auparavant vécu. Et ça le concerne. Quand il dit tout est accompli, c'est tout est accompli pour tout le monde, dans tous les domaines, mais aussi pour lui, dans sa propre famille, par rapport à Marie et surtout par rapport à ses frères et sœurs. Et il sait que ce jour va venir, personne d'autre ne le sait forcément, que ce jour va venir, il ne va pas tarder trop, puisque dans ces 40 jours après la résurrection, un jour, ce sera pour son frère Jacques. Voilà. Alors, quand il a enseigné à prier, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes rendus au même point que lui. Quand il dit Père, pardonne-leur, c'est pour tout le monde. C'est pour nous, aujourd'hui. C'est pour ceux qui le concernent. Parce qu'il va devoir pardonner Jacques. Il va devoir pardonner ses frères et sœurs. Sinon, la question du salut pour les membres de sa famille est engagée. Et il ne peut pas donner une parole qui s'adresse aux autres, quand bien même il y aurait tous les autres. Mais les siens ne peuvent pas être mis de côté. C'est tout le monde, y compris les siens. Et quand il avait enseigné « Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons », alors on comprend que ses paroles étaient courtes parce qu'elles étaient mesurées, elles étaient pesées, et il allait lui-même y passer et les vivre. Et il va pardonner à Jacques. Ceux qui se sont dit, ça n'apparaît pas, et c'est très bien, parce que ça ne concerne personne. Ça concerne que Jésus et Jacques, dans cette discussion. Mais le résultat, nous le voyons, Jacques se met à prier. Et il va se joindre aux autres dans la chambre haute, et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend sur tous, y compris Jacques. Et je pense que du haut du ciel, il y avait de la joie pour un pécheur qui se repent, c'est écrit, mais là, il y avait de la joie, parce que c'était une situation qui était humainement impardonnable et humainement perdue, mais ce jour-là, le Seigneur pouvait donner son esprit à son frère. Quelle victoire! Quelle grâce! Alors il y a eu une discussion en privé, et il faut qu'il y en ait un, qui commence. Ah! Qui c'est qui va commencer? La réponse, elle est simple. Celui qui doit commencer, c'est celui qui est offensé. C'est le plus dur à faire. C'est le plus dur à faire. C'est tellement plus facile quand vous attendez que l'autre se soit ressaisi et qu'il vienne de lui-même. Vous, vous priez, mais vous ne bougez pas. Ce n'est pas une position qui est mauvaise en soi, mais elle n'est peut-être pas la plus efficace quand même. Nous prions que l'autre change. Et nous attendons qu'il change. Là, on peut attendre longtemps. Pas attendre longtemps. Ça ne veut pas dire que les choses ne changeront pas, mais ça veut dire qu'on va certainement attendre longtemps. À moins que, et le Seigneur sait qu'il a 40 jours, parce que c'est écrit comme cela. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 40 jours, et dans le nombre de ces jours était déjà arrêté, et pendant ces 40 jours, il doit rencontrer Jacques. Et je crois pouvoir dire, sans commettre d'erreur, que le Seigneur a des émotions. Dans la nuit de Gethsémané, elles apparaissent au grand jour. Alors, cette rencontre, elle est forte à l'émotion. C'est peut-être pour cela que le Seigneur a prévu de rencontrer les uns et les autres, 500 frères à la fois, c'est peut-être plus facile, il n'y avait rien de particulier. Mais arrive maintenant le compte à rebours, demain, je dois rencontrer Jacques. Il faut que je rencontre Jacques. Il est hors de question que je remonte au ciel, que je m'occupe de tout pour tout le monde et que je n'ai pas tout fait pour mon frère Jacques. Alors, il va le rencontrer. Voilà. Et il va lui parler, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais on sait la finalité, il va lui parler pour gagner et pour que la situation change. Ne parlez pas pour autre chose. Ne parlez pas pour revenir sur le passé, parce que de toute façon, on ne peut pas y revenir. Nous sommes après la mort. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix, ça s'est passé. Maintenant, c'est écrit. On ne peut pas revenir dessus. Donc la situation, si vous l'abordez, ne tombez pas dans le piège de revenir sur 40 jours en arrière, 40 ans en arrière, etc. Parlez pour gagner, parlez pour demain. Parlez pour que la situation change. Et tant que vous n'êtes pas prêt à parler pour ça, ne parlez pas. Priez pour que Dieu vous aide à être prêt à parler pour ça. Parce que Dieu est un Dieu d'avenir. Dieu est un Dieu d'espérance. Et ce n'est pas celui qui va changer le passé. Le passé, il est tel qu'il est. Adam et Ève ont péché, on ne peut pas le changer. Mais Dieu va changer l'avenir. Pour que Adam, Ève et tous les autres puissent être sauvés. Voilà. Donc Dieu est un Dieu, vous comprenez ce que je vais dire dans ce sens-là, Dieu est le Dieu de demain, pas d'hier. Alors nous, parfois nous sommes décalés et nous sommes focalisés sur la situation d'hier, d'avant-hier et du passé. Est-ce que nous croyons que tout peut changer forcément ? Oui ! Alors cette situation-là aussi. Mais il faut payer le prix pour que tout soit accompli. Lui, il a payé le prix et il a dit tout est accompli. Et il le fait. Eh bien, celui qui est offensé va devoir payer le prix. C'est le passage obligé. On ne peut pas en être autrement. Et là, nous sommes à l'envers du fonctionnement humain. Comment moi qui suis offensé, je dois encore faire la démarche ? Humainement parlant, non, 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 non. Mais spirituellement parlant, c'est une bombe. C'est une dynamite. C'est la puissance de Dieu. C'est celui qui est offensé, qui fait la démarche. Et qui fait la démarche quand il est prêt à la faire, après avoir prié, pour gagner, pour que la situation change, pour l'avenir. Voilà. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Hier, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a rien qui t'a arrêté. Jamais, jamais. Pendant que tu les bénis, tu te sépares d'eux. Tu te sépares d'eux, tu es encore en train de les bénir. Voilà. Je ne sais pas à quelle vitesse il est parti. Il est parti certainement vite. Mais ils ont eu le temps de voir que pendant ce départ, il était encore en train de les bénir. Bénir est une constante dans la vie de Jésus. Dont nous sommes les bénéficiaires. Quelle grâce! Et c'est à cela que nous sommes appelés, à bénir, à parler bien, à agir bien, tout pour bénir. Ne saluez pas seulement ceux qui vous saluent. On va lire dans Matthieu 7, verset 12, un passage dans ce sens. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Quel résumé de la loi et des prophètes. Dans Luc, chapitre 6, c'est un petit peu plus détaillé. Luc 6, verset 27. Ce passage que nous lisons, et chaque fois que nous le lisons, et après l'avoir lu, nous faisons quand même nos petits commentaires dessus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vous parle, je suis concerné parce que quand j'ai réalisé ce qu'on m'avait fait, je me suis dit, si je les ai sous la main, et puis après je me suis dit, mais non, parce qu'il doit y avoir quand même quelque chose, parce que vous, normalement, vous vous dites, qu'est-ce que j'avais dans la sacoche? Des choses auxquelles vous teniez, ils n'en ont rien à faire, les photos des enfants petits. Voilà, donc sortez vos affaires si vous ne voulez pas perdre de l'affectif. Et j'ai dit, je dois avoir des cartes où il y a marqué pasteur dessus. Donc, si je les retrouve, il faut que je réagisse comme ça. Et puis, quand vous faites votre déclaration à la gendarmerie, que vous avez à côté la photo de tous les enfants disparus, vous dites, finalement, c'est une galère administrative. Mais comparé à... Donc, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Je crois que crois que là j'avais un décalage horaire. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Faites de même pour eux. Faites du bien. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, dira Pierre. Il se rappelle certainement des passages de sa vie. Quand il le renie pour la troisième fois, le coq chante. Ouh. Ah oui, on aime les paroles que Dieu nous donne. Parle-moi, Seigneur. Mais là, pour le coup, le Seigneur lui avait dit, quand le coq chantera trois fois, tu me renieras. Quelle drôle de parole, de connaissance. Et c'est Pierre qui dira dans 1 Pierre 3,9, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Alors si quelqu'un cherche sa destinée, son appel, vous avez été appelé à bénir. Autrefois, vous ne bénissiez pas comme Dieu l'entend, je veux dire. Je ne veux pas dire qu'on est passé de la nuit au jour dans tous les domaines de notre vie. Il y avait quand même des qualités dans le cœur des uns et des autres et dans la vie des uns et des autres, mais pas à ce niveau, pas à ce point. Voilà. Donc bénir, c'est vouloir faire du bien. C'est dire, c'est faire le bien. Et du bien, et rien d'autre. Rien d'autre. Il se sépare à deux, en les bénissant, eux ils prient et il leur renvoie son esprit. Et quand l'esprit vient sur eux, ils parlent des merveilles de Dieu. Eux se mettent à bénir Dieu. Ils le faisaient, mais ils le font davantage encore. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il nous bénit encore au travers du parler en langue et de ce don de l'esprit qu'il a donné aux siens. Celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Autrement dit, un don spirituel interprété ou une prophétie doit être cadré dans bénédiction et rien d'autre. Donc, quelqu'un qui se poserait parfois la question, mais comment dois-je me prononcer sur ce don spirituel, entre guillemets, qui vient d'être apporté, c'est un don cassant, etc. Ben, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il édifie, les autres, il console. Tout ce qui vient de Dieu, bénit. Voilà. Et si quelqu'un, le Seigneur a besoin de dire à quelqu'un quelque chose d'assez raide, il le lui fera en direct. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse quand on ne sait ce qu'il convient de demander. Il nous bénit. Et le dernier point, il nous donne son fruit. Galates 5, 22. Et le fruit de l'Esprit, c'est une bénédiction pour nos vies. Alors je termine. Soyez bénis et bénissez les autres. Amen. Amen.